Alors si on faisait un pacte de paix, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Il est 19h02 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info.
Du lundi. Alors, à l'international, pour commencer, on va parler de ce qui se passe en Égypte, ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment des manifestations et la répression du dictateur Al-Sisi. Ensuite, on ira en Colombie, où des manifestations étudiantes relativement massives ont également eu lieu. Et on finira donc l'international par l'incendie d'un camp de migrants à Lesbos. Au national, ensuite, on parlera à nouveau d'impunité policière en France. Hein, on vous en parlera un peu plus en détail. On ira ensuite du côté de Rouen, où figurez-vous que tout va bien, il ne s'est strictement rien passé. Ensuite, on parlera de notre ami Chirac et on continuera avec la Convention nationale de la droite, avec des beaux discours bien dégueulasses de certains membres de cette Convention nationale. Et on finira le national donc avec un point sur trois jeunes touristes allemands qui sont toujours dans les geôles françaises suite au G7. Et pour le local, donc, on reviendra sur la mise en place d'une identification faciale à Lyon pour interpeller un individu. Et on terminera ce sujet au local par la création d'Audace Lyon, donc nos amis les fachos. Et pour terminer, nous aurons la suite, la deuxième partie du dossier sur le mouvement à Hong Kong.
Et tout de suite, on commence avec l'Égypte.
Alors, l'Égypte, que se passe-t-il en Égypte ? C'est la première fois depuis la réélection truquée du général dictateur Al-Sisi que des manifestants osent descendre dans la rue. Mais c'est aussi, voire surtout, la première fois depuis son coup d'État en 2014 qu'il est directement mis en cause par les manifestants, ce qui est formellement interdit, tout comme le fait de manifester. Les centaines de manifestants, voire les milliers de manifestants qui ont bravé ces différentes interdictions sont extrêmement courageux et courageuses, puisqu'il y a des femmes aussi. Des manifestations ont ainsi eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre, d'abord au Caire, à Alexandrie, à Mahala, à Suez, pour dénoncer la dictature de Sisi, la corruption, les grands projets inutiles et les politiques d'austérité en parallèle, alors qu'effectivement Al-Sisi, hein, depuis quelques années, met en place de très grands projets pour lui et ses amis. Al-Sisi mène d'une main beaucoup trop sanglante la politique en partie dictée par l'impérialisme des puissances occidentales. La France en tête de file, on y reviendra. Les ONG estiment à au moins 60 000 le nombre de personnes emprisonnées depuis sa prise de pouvoir à Al-Sisi en 2014, tout en force, basée sur la répression violente des manifestations de la place Rabia El Adouya, donc où il y a eu plus de 2600 morts à cette époque. Selon l'ONG Human Rights Watch, on ne compte plus en Égypte les exactions de la police et de l'armée, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, les actes de torture, les viols ou les exécutions extrajudiciaires. Les conditions de détention sont particulièrement violentes. Selon l'ACLED, d'une autre ONG, une ONG anti-armes, l'Égypte est devenue il y a quelques mois le troisième pays le plus actif en termes de violence sur le continent après la Somalie et le Nigeria. Tout ça en limitant au maximum l'accès aux observateurs indépendants. Le recours à la peine de mort est également massivement utilisé. Beaucoup d'Égyptiens considèrent donc que manifester en 2019 s'apparente à une mission suicide. Pendant et suite aux manifestations de la semaine dernière, environ 2000 personnes ont été arrêtées, dont la plupart de manière préventive, des journalistes, des militants, des intellectuels, etc. Heureusement que cette chère Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a appelé les autorités égyptiennes à changer radicalement d'approche face aux manifestations, réclamant la libération immédiate des personnes interpellées. Réaction donc immédiate d'Al-Sissi, puisque la manifestation prévue le 27 septembre, tremblant de peur, il a décidé de renforcer considérablement la présence policière et militaire dans toutes les grandes villes du pays, en particulier sur la place Tahrir au Caire, rappelant les dispositifs policiers de 2011 au moment de l'immense révolte populaire qui chassait Moubarak du pouvoir. Il y a eu environ 3000 personnes qui ont malgré tout défié le pouvoir dans plusieurs villes d'Égypte. Les manifs ont été très vite dispersées, très fortement réprimées. Il est difficile d'avoir des informations sur le nombre des interpellés puisque c'était il y a 3 jours. Malgré toutes ces nouvelles informations, les États-Unis et la France continuent à soutenir le dictateur Al-Sissi en vendant des armes, des équipements militaires. Donc, à bas Al-Sissi et à bas l'impérialisme occidental.
Et on passe maintenant aux manifestations étudiantes en Colombie.
Alors oui, depuis une semaine à Bogota, Bogota est le théâtre de manifestations massives des étudiants. En fait, tout a commencé lorsqu'a éclaté un scandale de corruption, encore un, dans une des principales universités publiques de la ville, l'Universidad Distrital. En fait, suite à une enquête de la police anticorruption, un enseignant et plusieurs autres fonctionnaires de l'établissement auraient été impliqués dans le détournement de près de 3 millions de dollars du budget de l'université à des fins personnelles. Donc mercredi dernier, un premier rassemblement a eu lieu dans l'université pour réclamer la démission des personnes impliquées et des investigations plus approfondies. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, il y a eu une répression assez importante dans cette université et dans une université voisine, mais qui est une université privée. En gros, les ESMAD, donc, qui sont l'équivalent des CRS, en ont profité donc, pour réprimer violemment les étudiants en investissant simultanément les deux campus, notamment avec des camions blindés et des canons à eau. D'ailleurs, un hôpital universitaire a été complètement noyé sous les gaz lacrymo, donc les patients, mais aussi les soignants. Et on en compte 9 blessés assez graves suite à une explosion qui est de nature inconnue, chaque camp accusant l'autre d'être responsable de l'explosion. Du coup, face à cette répression qui est assez commune en Colombie, il y a eu une autre manifestation d'appeler le vendredi dernier, pour demander la dissolution du ESMAD donc, par le gouvernement, donc des forces anti-émeutes. Alors, les membres du ESMAD sont particulièrement réputés pour leur ultra-violence en Colombie et les nombreux morts qu'ils ont pu causer lors des manifestations ces dernières années, sans parler des blessés graves dont est impossible d'avoir les chiffres parce qu'en Colombie, jamais on va se revendiquer comme blessé grave. Par peur de la répression. À tel point d'ailleurs que donc, les ESMAD ils sont surnommés les escadrons de la mort par les militants. Donc il y a eu 11 universités publiques et privées qui ont participé à la manifestation. Et au centre-ville, le cortège il s'est attaqué à l'ISTEX, qui est en fait l'Institut bancaire colombien chargé des prêts étudiants. Donc, c'est-à-dire l'endroit où plusieurs générations en fait, d'étudiants et d'étudiantes colombiens et colombiennes se sont endettés et s'endettent à vie pour pouvoir poursuivre des études dans un des systèmes d'enseignement supérieur qui est parmi les plus chers en Amérique latine. Donc le bâtiment a été complètement ravagé et ensuite il y a eu des affrontements au centre-ville pendant plusieurs heures, en fait, de 16h à 20h du soir, avec un centre-ville complètement bouclé. Donc les étudiants en Colombie, ils ont toujours été la première force sociale qui s'oppose au gouvernement. Et c'est encore plus vrai depuis que le pays est gouverné depuis quelques années par le président d'extrême droite, Iván Duque. Alors cette mobilisation, elle a lieu dans un contexte social qui est particulièrement tendu dans le pays. Alors que cette année, le pouvoir a joué à fond sur la fibre nationaliste dans son bras de fer avec le pouvoir vénézuélien, jusqu'à des réelles menaces de guerre. L'opposition sociale, parallèlement, devient de plus en plus difficile. s'y ajoute donc le non-respect de l'accord de paix avec les FARC par le gouvernement et une crise migratoire assez importante avec l'afflux de réfugiés vénézuéliens en Colombie. Donc, en mai 2019, on comptait à peu près 837 leaders sociaux assassinés depuis l'élection d'Ivan Duque, tandis que le gouvernement reste intouchable et impassible et dans l'impunité.
On passe maintenant à Lesbos, où il y a eu un incendie dans un camp de migrants.
Oui, une fois de plus, les conditions indignes d'accueil des exilés ont tué ce dimanche. Au moins deux personnes sont mortes lors de l'incendie du camp de Moria, sur l'île grecque de Lesbos. Alors Lesbos, c'est cette île grecque au large de la Turquie qui est devenue depuis 2015 l'une des principales portes d'entrée vers l'Europe pour les exilés. Le camp de Moria où s'est produit donc cet incendie est le plus important de l'île mais aussi d'Europe. Initialement, il avait été conçu pour accueillir 150 personnes pour une à deux nuits avant un transfert vers la capitale grecque, Athènes. Aujourd'hui, grâce à l'intervention coupable de l'Allemagne et de la France, c'est devenu un véritable camp de rétention. Les deux pays ont imposé donc les hotspots un peu partout aux frontières de l'Europe pour externaliser leurs propres frontières nationales. Ces lieux de passage servent désormais à identifier, enregistrer et trier les exilés. Et Moria est donc devenu l'un de ces camps d'enfermement avec tout ce que ça implique de barbelés, de violences physiques et psychologiques et de privation pour celles et ceux qui subissent les politiques morbides anti-migratoires du vieux monde. Alors aujourd'hui à Moria, il est fréquent que les 25 jours de détention se transforment en privation illimitée de liberté. La surpopulation du camp s'est particulièrement aggravée depuis le début du mois de septembre. Actuellement, le camp de Moria, il accueille 13 000 personnes pour une capacité réelle de 3 000 personnes. Donc les gens sont logés dans des baraquements de fortune et dans des conditions sanitaires forcément insupportables pour celles et ceux qui les subissent. L'incendie donc s'est déclenché à 16h45 dimanche, probablement par un petit commerce ambulant qui se trouvait dans le camp. Il y a 6 ou 7 conteneurs qui hébergent des exilés qui se sont retrouvés en proie aux flammes. Et l'arrivée tardive des secours n'a pas permis de contraindre l'incendie à temps. Au moins une femme et un enfant ont trouvé la mort. À la suite de ça, des émeutes ont éclaté, colère légitime à laquelle la police a bien entendu répondu par des tirs de gaz lacrymogène. Les autorités grecques se sont d'ailleurs trouvées bien plus promptes à déployer les forces de la répression que les bombardiers d'eau pour éteindre l'incendie, puisque des renforts de keufs sont arrivés assez vite directement d'Athènes. Alors voilà, les frontières tuent toujours. Des milliers de personnes trouvent la mort chaque année du simple fait des politiques insupportables de l'Europe à ses frontières. Entre 2014 et 2018, rien que pour la Méditerranée, ce sont au moins 16 862 personnes qui ont trouvé la mort. On sait à quel point ces chiffres sont en deçà de la réalité quand on connaît l'anonymat auquel on renvoie sans cesse celles et ceux qui prennent contraint la route de l'exil et parfois malheureusement de la mort. Alors abat toutes les frontières et comme disent nos camarades, Boza contre la forteresse Europe et Boza contre les frontières.
Et on va d'ailleurs écouter une musique.
Que tu vas nous présenter ?
Et oui, tout à fait. C'est Francesca Solville, Frontières.
C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, en faire un foin, hurler à la chasse aux sorcières. Qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires? Chacun chez soi, c'est plus serein. Faut se méfier du chien qui erre. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? « vrai d'ailleurs que les bohémiens, c'est dans leur gêne le goût de l'air. Que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters. Que ces ramassis, ces vauriens, voleurs de poules, de pommes de terre. Pour les plumés, eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Est-ce pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières? C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières?
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est toujours le Canu Info du lundi et on passe au national avec un sujet sur l'impunité policière.
Et oui, en ce début de semaine, trois événements doivent nous alerter encore plus sur la manière dont l'impunité des acteurs de la répression est organisée et construite au quotidien. Tout d'abord, à Toulouse, samedi dernier, on a eu plusieurs observateurs de la LDH, donc qu'on appelle les Gilets Bleus, qui ont été gazés, puis violemment matraqués par les forces de l'ordre, alors que ceux-ci se contentaient d'observer les manœuvres de la police. Un des flics leur a même lancé « Je vous emmerde, la LDH, vous nous pétez les couilles ». Des menaces donc directes, ah non c'est pas très gentil, des menaces directes de leur régler leur compte, alors qu'a été créé depuis plusieurs mois un observatoire des pratiques policières à Toulouse par la LDH. Autre incident, enfin accident, c'est un autre collectif qui dérange depuis longtemps les forces de l'ordre, c'est Désarmons-les, un acteur en point donc depuis plusieurs années dans la lutte contre la répression, et là aussi on a un de leurs membres qui a été victime d'une arrestation ciblée et assez violente durant la manif Gilets jaunes de Montpellier samedi dernier. Donc Yann B, qui devait mener une conférence avec les membres de l'Observatoire des pratiques policières de Montpellier le même week-end sur la répression en France actuellement, a été interpellé dans la manif sans motif valable, et on attend toujours aujourd'hui le verdict parce qu'il passait en audience au TGI cet après-midi. Et enfin, dernière information, et pas des moindres, c'est Assa Traoré qui est convoqué demain au commissariat du 17e pour avoir nommé et dénoncé sur Facebook les gendarmes impliqués dans la mort de son frère Adama Traoré. Les gendarmes donc responsables du plaquage ventral qui a tué Adama, donc une méthode policière qui a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa dangerosité, donc ont porté plainte car elle les a affichées publiquement. Donc la répression et les intimidations continuent à l'encontre de la famille Traoré, alors que la quasi-totalité de ses frères ont déjà été emprisonnés suite à des plaintes de gendarmes et de policiers pour des motifs divers. Et à chaque fois, c'est l'esprit corporatiste de la police et l'indulgence de l'État qui assurent l'impunité de chaque policier. La même logique peut alors se perpétuer. Protéger l'institution coûte que coûte, empêcher qu'on révèle son fonctionnement, ses mécanismes, ses crimes, et veiller à l'anonymat de ceux qui sont accusés de violence. Voilà qui n'augure donc rien de bon et qui montre à quel point, comment la lutte contre la répression est plus que jamais importante. Alors on lâche rien, on continue les caisses de sceaux, les rassemblements en soutien, etc. Et car ce que ne se saisit pas ce pouvoir, c'est que probablement c'est cette répression tout azimut, c'est de cette répression tout azimut que pourra venir l'alliance des différentes forces sociales à même de renverser la balance.
Et toujours dans l'actualité nationale, on va voir la météo du côté de la Normandie.
Oui, c'est ça, puisque à Rouen, tout va bien, il ne s'est rien passé, si ce n'est peut-être jeudi dernier, à 3h du matin, un incendie qui s'est déclaré dans une usine classée Seveso, qui fabrique des additifs pour des lubrifiants, des huiles et des peintures. Un site Seveso, donc c'est quand même une usine qui normalement est particulièrement surveillée parce qu'on considère qu'elle présente un risque de par les produits qui y sont manipulés. Et aujourd'hui, on ne sait pas, apparemment pas, la cause de l'incendie ou alors on ne l'a pas encore communiqué. Il en est résulté une fumée noire qui s'est étendue officiellement sur 20 km, mais de la suie d'hydrocarbures a été retrouvée jusqu'à 45 km au nord de Rouen. Aujourd'hui, les champs sont couverts de cette suie d'hydrocarbures, les animaux d'élevage aussi. Donc les agriculteurs ont reçu l'ordre de ne plus récolter leur production et les éleveurs d'enfermer leurs bêtes, évidemment. Donc ça veut dire que la production ne sera certainement pas vendue pour eux, mais ça veut dire aussi et certainement que les sols sont contaminés. Même si on lit partout dans la presse qu'il faut faire des analyses avant de s'avancer sur ça. Moi, je ne pense pas trop mouiller en disant que les sols sont en effet contaminés quand on voit les images de la fumée et de la suie. Puisque ce qui s'est passé, c'est quand même clairement pas un simple accident, c'est une catastrophe industrielle qui a des conséquences et pas que sur les sols et les animaux. On va en parler. En ce qui concerne les habitants, eux, ils ont eu la simple recommandation d'éviter les déplacements inutiles. Les établissements scolaires sont fermés, mais c'est à peu près tout. Et donc, les habitants se plaignent de ne pas avoir plus d'informations, notamment sur les risques qu'ils encourent. D'autant plus qu'on sait maintenant que les toits incendiés étaient en fait amiantés. La préfecture a très vite dit que la toxicité n'était pas aiguë. En fait, la toxicité, si elle n'est pas aiguë, ça veut juste dire qu'on ne va pas en mourir sur le coup. Et on imagine bien que ceux qui ont commencé à avoir des maux de tête, à tousser et à vomir, se posent des questions. Et encore plus quand, vendredi dernier, ils ont vu les gendarmes en service équipés de masques, alors qu'eux, on ne leur a pas dit que l'air était toxique et qu'encore moins, on leur fournit des masques. Même les pompiers se plaignent, eux, de n'avoir eu que des protections de papier quand ils sont intervenus sur l'incendie. Les habitants se sont donc rassemblés devant la préfecture, assez rapidement. Aujourd'hui, ils étaient aussi devant le conseil municipal et demain, ils seront devant le palais de justice. Un collectif s'est monté pour obtenir la transparence sur les événements et il y a même une collecte pour payer des analyses indépendantes sur la pollution provoquée par l'incendie. Je vais en y revenir. Si vous voulez trouver la collecte en ligne, allez voir le collectif Lubrizol et le site Rouen dans la rue. Ces analyses indépendantes, les militants, les personnes qui s'organisent, ils les veulent parce que les analyses qui ont été déjà effectuées et publiées par la préfecture, elles ont été rapidement critiquées pour n'avoir cherché dans que des polluants classiques, c'est-à-dire les polluants qui sont partout, qui sont à Lyon et partout ailleurs. Ce qui permet de dire qu'il n'y a pas de polluants anormaux à Rouen. Mais en fait, on ne risque pas de les trouver, ces polluants anormaux, puisqu'on ne les cherche pas. Et ça arrange bien la préfecture puisque le préfet avait autorisé en début d'année l'augmentation des quantités de stockage sur place à côté de l'usine sans enquête au préalable sur les risques environnementaux. Donc on le redit, cet incendie c'est une catastrophe industrielle et malgré ça, bon, en fait jeudi matin très tôt les médias ont commencé à en parler. Mais il se trouve qu'à 11h58, une information beaucoup plus importante tombe. Vous la savez certainement, c'est la mort de Chirac. Et comme un présentateur de France Info le dit sur Twitter, une autre journée commence et rideau sur l'incendie.
Écran de fumée même, ouais. Sur l'incendie. Ok.
Okay. Alors, on enchaîne avec Chirac, puisque c'était une excellente transition. Alors, pourquoi un sujet sur Chirac, puisqu'effectivement, les médias de masse en ont fait quand même des grosses tartines. Alors, déjà parce qu'il est mort, et que nous, ici, on aime bien faire des sujets sur nos ennemis quand ils sont morts. Et puis là, justement, donc les chiens de garde que sont les médias de masse ont vraiment bien fait leur travail de laquais du pouvoir en survalorisant le personnage et la personnalité, les actions de Chirac, président de tous les Français. Il aimait les Français, il était proche du peuple, etc. Alors ici, on va pas relater tout ce qu'a pu faire Chirac, puisque c'est beaucoup trop énorme, mais on va essayer déjà de rappeler les plus grosses affaires ou les plus grosses actions de Chirac, toutes plus dégueulasses les unes que les autres, sur l'ensemble de sa carrière d'homme politique, de la mairie de Paris, à la fin de sa carrière politique de président. Alors déjà, on peut citer les affaires qui ne représentent rien face à l'ampleur du désastre et de la réalité, où il a été mis en examen. Alors, pour commencer, les emplois fictifs de Paris et de Nanterre entre 90 et 95, où il est condamné en 2011 à 2 petites années de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance, délit d'ingérence et prise illégale d'intérêt. Autre affaire, les marchés HLM de la ville de Paris, qui donc correspond à des détournements de fonds effectués en marge des marchés publics de l'office HLM de la ville de Paris au profit du RPR, le RPR, l'ancien UMP puis LR. Chirac est sauvé grâce à un vice de forme. Les commissions occultes, autres affaires, les commissions occultes en marge des marchés des lycées d'Île-de-France dans les années 90, qui ont permis de financer entre autres le RPR, le PS et même le PCF. Plusieurs proches de Chirac sont mis en examen au début des années 2000, mais Chirac bénéficiait à l'époque de l'immunité présidentielle, donc il ne sera pas inquiété malgré la condamnation 2005 et 2006 de deux de ses proches, dont son ex-bras droit à la mairie de Paris. Encore deux exemples, parmi tant d'autres, les frais de bouche somptuaires des époux Chirac entre 87 et 95 à la mairie de Paris, qui correspond à la modique somme de 2,14 millions d'euros. A priori, ils ont un peu dépassé les budgets. Ou encore le détournement de fonds au profit du cabinet du maire de Paris, donc Chirac, de l'imprimerie Sempap, chargé de l'impression des documents municipaux entre 87 et 85. Donc ça, 95, pardon. Ça, c'est le sommet de l'iceberg pour la mairie de Paris. Passons maintenant à la présidence de la République et attardons-nous sur quelques points parmi beaucoup d'autres. Alors on pourrait évidemment détailler la politique intérieure menée sous Chirac, peu importe les cohabitations d'ailleurs, hein, droite comme gauche, qui de 1995 à 2007 vont dans le sens d'un durcissement sécuritaire, raciste et ultralibéral sur le plan économique. Mais ce serait ici trop long, on peut juste remercier Chirac d'avoir pu créer deux des plus gros mouvements depuis 68 en 1995 contre la réforme des retraites et en 2006 contre le CPE, mais à part ça, rien.
En 2005 aussi quand même dans les banlieues, quoi, les émeutes.
Effectivement, en 2005 dans les banlieues, il faut le noter aussi, t'as raison. On pourrait s'attarder sur le bruit et l'odeur, mais ça tout le monde connaît. Alors attardons-nous plutôt sur deux discours ou positions qui ont été encensés ces derniers jours par les médias. Le premier, celui de 2002 à Johannesburg sur le climat, et la position de la France en 2003 contre l'intervention américaine en Irak. Alors prenons d'abord l'intervention américaine et la position de la France. Chirac serait un grand homme de paix qui a refusé la guerre en Irak. On notera d'ailleurs que le veto au Conseil de sécurité de l'ONU a vachement bien marché puisque les États-Unis ne sont pas du tout intervenus en Irak. Donc Chirac serait un homme de paix soucieux des populations. Mais pourtant, Chirac, c'est l'homme d'État qui a probablement le plus perpétué la France-Afrique après De Gaulle ou Mitterrand. Et ce même avant qu'il soit élu président de la République, hein, quand il était Premier ministre. Chirac a soutenu les pires régimes des anciennes colonies, en devenant même ami proche de certains dictateurs comme Assane au Maroc, Omar Bongo au Gabon, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, et Yadema au Togo, ou encore Paul Biya au Cameroun. Il a mis en place, avec le soutien indéfectible de l'horrible Charles Pasqua, disciple du non moins horrible Jacques Faucard, de nouveaux réseaux occultes de détournement de fonds au profit du parti gaulliste, des différents partis gaullistes via Elf, puis Total, Areva, Dassault, Bolloré et les dictateurs. D'abord, ces réseaux étaient des réseaux parallèles aux réseaux propres de Mitterrand, puis ce sont devenus les principaux réseaux. Il n'a jamais lésiné dans le soutien à ses frères, hein, ses amis, de les appeler comme ça, ces dictateurs. Quelques brefs exemples. Sassou Nguesso, un dictateur sanguinaire, a bénéficié du soutien militaire en 74, 88 et entre 97 et 2003 dans une des pires guerres civiles qui ait connu ce pays en Afrique. Idem pour Idriss Déby au Tchad, toujours au pouvoir pour Paul Biya au Cameroun ou encore le fils d'Yadema au Togo. Hein, Chirac a fait une intervention militaire pour soutenir son coup d'État en 2005 qui a provoqué plus de 1000 morts parmi les civils. Alors je vous passe tous les détails de Chirac en Afrique puisque ce serait beaucoup trop long. Un conseil, si vous voulez en connaître beaucoup plus, eh bien, lisez Noir Silence de François-Xavier Verschave. C'est tout simplement impressionnant. Verschave, la star hein, du bouquin, c'est Chirac et les dictateurs africains et les hommes d'affaires français. Verschave a gagné son procès d'ailleurs contre la plupart des dictateurs africains qui ont porté plainte contre lui. Et Chirac n'a par ailleurs jamais été inquiété, mais il est mis en cause dans un nombre d'affaires absolument considérable, spécifiquement sur l'Afrique. Quant au discours de Johannesburg en 2002, alors vous l'avez forcément entendu, c'est « nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas sur le climat », là qui a été encensé par les médias. Il est en total décalage avec la plupart des actions à son poste de président de la République. Chirac, c'est d'abord un fervent défenseur et artisan du productivisme, des OGM et surtout du nucléaire civil et militaire. Quelques mois après sa première élection de 95, il décide de reprendre les essais nucléaires dans le Pacifique, juste à côté des îles colonies françaises, pour affirmer au monde la puissance de frappe de la France. Action particulièrement morbide et destructrice pour les populations du Pacifique, qui signifie encore aujourd'hui pour elles des générations de cancéreux, des poissons maladifs et un environnement barrière de corail et vie sous-marine à jamais défigurée par l'arme atomique. Ou bien encore, et après je terminerai là-dessus, les bisbilles avec certains dictateurs africains encore, hein, pour incinérer déchets à l'air libre ou enfouir sous le sol de nombreux déchets nucléaires, mais pas uniquement, dont par exemple certains à Lagos, hein, à ciel ouvert, au Nigeria, qui tuent chaque année environ 50 000 personnes selon l'OMS. Je m'arrête là, il y en aurait tellement d'autres, mais en tout cas, ce qu'on peut conclure, c'est que Chirac est mort, qu'on le regrettera pas, tout comme d'ailleurs ses prédécesseurs et également ses successeurs.
Oui, bah, du coup, on va parler de ses successeurs tout de suite. Hein.
Successeurs,
ses potentiels successeurs.
Potentiels, pas tout à fait, mais bon. Alors, comme au 19e et au 20e siècle, les démocraties occidentales continuent aujourd'hui encore à être hantées par les mêmes spectres. À la différence qu'aujourd'hui, l'islamophobie a remplacé l'antisémitisme comme leitmotiv et qu'Edouard Drumont, ancien auteur du best-seller La France juive, a trouvé comme successeur Éric Zemmour. Alors ce dernier d'ailleurs s'est illustré ce week-end durant la très fasciste convention de la droite, colloque organisé par Marion Maréchal-Le Pen et qui se veut une étape dans la refondation d'un bloc de la droite. En effet, alors qu'il vient à peine d'être condamné pour appel à la haine raciale, Zemmour s'est lancé dans une diatribe anti-musulman qui n'a rien à envier au discours antisémite d'Edouard Drumont à l'époque. Je le cite, il a dit par exemple « Quant à l'islam, nous avons l'embarras du choix. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. » Voilà, ça donne le ton de la réunion. Cerise sur le gâteau, c'est que ces discours haineux ont été retransmis en direct sur plusieurs chaînes d'infos sans aucune distance critique et en particulier sur une chaîne, en fait, sur LCI. Cette dernière, face à l'indignation générale quand même de retransmettre en direct des discours qui appellent à la haine raciale, ne s'est excusée qu'à demi-mot en disant que c'était une décision discutable du comité de rédaction. D'ailleurs, bien peu en fait ont été les politiques ou membres de l'intelligentsia médiatique à s'indigner des appels à la haine de Zemmour et consorts. Et on peut que constater d'ailleurs aussi l'hypocrisie de certains personnages comme BHL qui s'attaque à l'islamophobie de Zemmour pendant cette réunion alors que lui-même a grandement participé à l'inscription du problème de l'islam au centre des agendas politiques et médiatiques durant ces dernières années. Et il en va de même pour Raphaël Enthoven, le pseudo-philosophe, qui s'est affiché en valeureux défenseur des valeurs républicaines pendant la convention, en tenant la contradiction aux différents intervenants fascisants. Si il les critique partiellement en disant qu'ils sont trop réactionnaires, il a ensuite déclaré sur Twitter « J'ai eu tout à fait tort de dire qu'en me rendant à la convention de la droite, je perdais plein d'amis sans en gagner un seul. Le reste, je le maintiens. » Merci à tous. L'extrême droite n'est pas le diable, car le diable n'a que faire des arguments. Love and fight. Voilà. Donc, en plus de plagier de manière plus soft les diatribes antiféministes, antisociales et racistes de l'extrême droite depuis quelques années, Enthoven nous révèle désormais de manière flagrante comment la haute bourgeoisie et l'intelligentsia médiatique est prête à s'accommoder du fascisme. Le fond de l'air est définitivement brun en France aujourd'hui, et pas seulement à cause de l'incendie de Lubrizol.
Et ouais, toujours au national, on va parler de trois jeunes touristes allemands toujours enjôlés après le G7.
Et même avant même le G7, c'est ça toute la beauté de l'affaire, c'est qu'en fait ils n'ont même pas pu en fait faire quoi que ce soit et profiter de leurs vacances. Et donc on va revenir sur ce triste épisode qui nous parle, qui est toujours aussi dans une France toujours aussi brune. Alors ce vendredi, donc le 27 septembre, se tenait le procès en appel donc de trois jeunes Allemands arrêtés donc comme on le disait le 21 août, donc en amont du G7, au cours d'un contrôle routier sur un péage juste à côté de Biarritz. Donc on va faire un petit retour sur ce dernier fiasco judiciaire qui en fait se révèle être une magnifique affaire européenne. Donc ces trois jeunes âgés de 18 à 22 ans ont donc été arrêtés et suite à la fouille de leur véhicule, on a été quand même découvert, attention, 6 cagoules, un brise-glace, des autocollants collectifs plutôt de gauche, du matériel de sport, des livres de gauche et des vêtements dont certains étaient noirs. Donc suite à cette grande découverte une petite bombe à poivre aussi d'autodéfense. Et donc ils ont donc été mis en garde à vue suite à cette découverte et ont quand même été condamnés dans la foulée à entre 2 et 3 mois de prison pour, attention je cite, participation à un groupement en vue de violence. Avec, selon le procureur de la République, des risques latents d'atteinte aux personnes et d'atteinte aux biens. Donc voilà, donc on se retrouve donc sans aucun respect de la présomption d'innocence. Ils ont donc été immédiatement séparés dans trois prisons différentes, avec une totale impossibilité de communiquer vers l'extérieur, et leurs familles ayant été mis au courant quasiment 15 jours après leur incarcération, et un quasi total accès aux droits, sachant qu'en fait ils n'ont pas eu la possibilité de choisir leur avocat, et qu'un avocat commis d'office leur a été imposé. Donc ce que nous a aussi, surtout, et c'est ça là où ça devient vraiment du grand n'importe quoi, révélé l'enquête et le procès, c'est que sur le port d'armes, en fait, qui a été une des bases de l'accusation, a évidemment été levé parce que la possession de clés à molette dans un véhicule peut servir à des réparations mécaniques, et que la possession de brise-glace en Allemagne est maintenue obligatoire dans les véhicules, et donc en fait qu'ils n'ont fait que respecter leur droit national. Et bien ce qu'on a surtout fini par découvrir, c'est que l'un de ces trois jeunes était sans qu'il le sache, était interdit de séjour en France, mais surtout qu'un des deux autres était présent dans un fichier transmis par les autorités allemandes en amont du G7 et sur la demande de la France. En fait, ce fichier fait par la police et les services secrets allemands est un fichier totalement politique et non pénal, parce que la grande majorité des gens présents n'ayant pas été condamnés, et a pour but en fait de rassembler et donc de faire un fichier de toutes les personnes militant de gauche et d'extrême gauche, mais aussi leurs proches et aussi les journalistes avec lesquels ils ou elles peuvent un jour échanger. C'est ainsi aussi qu'un autre journaliste allemand, qui lui était en poste à Dijon, a quand même eu la grande joie de se faire ramener deux fois de suite pendant tout le mois d'août à la frontière allemande, simplement parce qu'en fait il souhaitait descendre à Bayonne pour couvrir l'événement et avait le malheur d'être présent sur ce document. Donc ce vendredi est passé en appel, ces trois personnes sont passées en appel. Le rendu de ce jugement ne sera pas fait avant le 17 octobre. Donc en attendant, ils ont été, alors que leurs avocats ont demandé leur libération, ils ont été quand même condamnés à retourner en prison. Et donc on est en attente. Et donc on en est quand même après l'abandon du port d'armes. Ils sont donc encore retenus pour possession en fait de stickers et de littérature gauchiste. Parce que ce sont des activistes outre-Rhin et qu'ils ont participé plusieurs fois à des manifestations dans leur pays. Donc on peut qu'espérer que le nouveau juge mette fin à ce procès d'intention, et dans tous les cas, comme le rappellent les soutiens présents devant le tribunal, il nous reste juste qu'à dire liberté pour les trois et feu aux prisons.
On enchaîne avec une petite musique qui va nous servir de transition pour le local, donc qui s'appelle Le Grand Lion. Ça a été trouvé sur le site mix-don.net dans la section freestyle. C'est une petite blague à Gérard Collomb.
Grand Lion, je te dis. Des quenelles tolérantes, des cervelles de canuts, la biennale quotidienne, la symbiose dans la rue, le sourire des Lyonnais dans les rues de Saint-Jean, la grandeur de Fourvière dans le cœur des enfants, le grand lion qui jaillit, qui ruisselle la chance, la beauté politique qui transcende la France, les soirées endiablées des écoles de commerce, même un jour à Pardieu j'ai croisé Julien Lepers, et je marche jusqu'à Perrache, c'est joli les immeubles, y'a des appartements avec de jolis meubles, les gens aussi sont jolis, ils habitent Grand Lion, un jeune couple sympathique avec un petit garçon, les lumières qui danse en plein mois de décembre, la misère culturelle est vite réduite en cendres. Je me sens joyeux, tous les gens sont heureux, y'a des salles de spectacle vraiment de qualité. Ah vraiment, quel bonheur d'habiter le Grand Lion. Communauté de communes du grand Gérard Collomb. Ah vraiment, quel bonheur d'habiter le Grand Lion. Communauté de communes du grand Gérard Collomb. Communauté de communes, Gérard. Ravage colon. L'ouverture sur le monde, la richesse des parois, monument historique qui inspire la foi en l'avenir céleste dans le cœur des bourgeois. Des bobos, des bibis, la mixité est jolie. Des gyropodes écolos, des voitures, des vélos. Y en a pour tous les goûts, de la musique électro. Des câlins gratuits sur la place des terreaux. Une véritable osmose entre homo et hétéro. Des ateliers d'artistes qui fleurissent à Croix-Rousse. La police est gentille, elle est loin d'être farouche. Les agents municipaux, ils sont vraiment mignons. Je suis trop content d'habiter le Grand Lion. J'aime flâner en errance, en pleine itinérance. De Gerland à Bellecour et même à Confluence. Capitale de la Gaule, j'aime le Rhône et la Saône. J'aime l'art contemporain, je suis fan de l'OL. Ah vraiment, quel bonheur d'habiter le Grand Lion. Communauté de communes du grand Gérard Collomb. Ah vraiment, quel bonheur d'habiter le Grand Lion. Communauté de communes du grand Gérard Collomb. Communauté de communes.
Gérard Collant.
M-U-D-A, exact. Luca la prod. Ouais. 2015, mixdon.net, Virtual Fancy.
Et on se retrouve pour parler de l'actualité locale dans la communauté de communes de Gérard Collomb. Avec un premier sujet sur l'utilisation de l'identification faciale pour un procès à Lyon.
Et oui, bienvenue dans le troisième millénaire. Hein. Alors, on s'était déjà inquiété ici de l'utilisation de la reconnaissance faciale, mais plutôt du côté de la Chine. Et bien, voilà que ça arrive chez nous. Ce 17 septembre, à Lyon, un homme était jugé pour le vol d'un camion. Et ce sont les images de vidéosurveillance qui ont permis de le confondre. Alors, sa photo a été extraite des images de vidéosurveillance, puis analysée à l'aide d'un logiciel de reconnaissance faciale qui a donc réussi à associer son visage à un nom. Alors, le procès a été pour le moment reporté, faute de jurisprudence sur l'utilisation de ce genre de procédé pour identifier les suspects. La gendarmerie devra, jusqu'au procès, essayer de démontrer la fiabilité du logiciel. Et ce procès fera évidemment date, puisqu'il constituera probablement un des premiers cas de jurisprudence dans ce genre d'affaires. Et une condamnation pourrait aboutir à la généralisation de ce système pour identifier les suspects, que ce soit dans nos manifs, sur les réseaux sociaux, dans la rue, un peu partout, quoi. On espère que ces technologies liberticides seront mises à mal, mais en attendant, à nos masques et à nos cagoules.
Et plutôt que d'identifier facialement les gens dans des tribunaux, il faudrait identifier des fachos facialement sur l'eau.
Oui, nous aussi, on a procédé à un petit jeu de reconnaissance d'identité. Alors, Audace, c'est pas du tout le nouveau nom d'une marque de parfum, ni même le dernier titre du roman de Houellebecq, mais bien celui, beaucoup plus tristement, d'un groupuscule fasciste lyonnais. Alors, Audace, ce groupe qui se présente sur sa page Facebook comme une communauté militante s'inscrivant dans une dynamique de reconquête politique, sociale et culturelle à l'échelle locale, n'est en réalité qu'une tentative grossière de faire du neuf avec du vieux, puisqu'en effet, Audace, né le 14 septembre 2019 sur les réseaux sociaux, n'est autre qu'un ravalement de façade qui cache derrière elle les anciens membres du Bastion Social. Alors, petite chronologie, petit rappel, le Bastion Social, ce groupuscule d'extrême droite, avait été créé en 2017 à Lyon par d'anciens membres du syndicat GUDS, groupe Union Défense. Ils organisaient leur activité surtout depuis le pavillon noir, ce local, sous la forme de maraudes d'abord, destinées à ce qu'ils appelaient les Français de souche, puis beaucoup plus violemment et beaucoup plus clandestinement de ratonnades, voire de tabassage en règle de toutes ceux et celles qui n'entraient pas dans leurs critères racistes, homophobes et nationalistes. Pour continuer cette petite chronologie, on avait le pavillon noir, il a été fermé en novembre 2018 par la ville de Lyon, après un arrêté de fermeture administrative. Mais ces activités fascistes n'avaient pas cessé pour autant. Hein. On se rappelle des incursions ultra-violentes des fachos l'année dernière dans les manifs des Gilets jaunes, leurs attaques, etc. En mars 2019, on a donc du coup l'ex-leader du mouvement qui a été condamné, donc Steven Bissuel, qui a été condamné par la cour d'appel de Lyon pour 6 mois avec sursis. Bref, au niveau national, il faut attendre avril dernier, toujours dans ce contexte tendu des Gilets jaunes, pour que Macron condamne et décide la dissolution du Bastion Social. Voilà. Donc ça, c'est peut-être l'occasion pour nous de voir rapidement les limites de cette stratégie de la dissolution, qui est peut-être aussi une forme d'illusion, puisque d'abord, il y a une forme d'hypocrisie de l'État qui reproduit en fait structurellement via ses institutions toute la violence qu'il condamne publiquement et qu'il attribue seulement au groupuscule fasciste. En plus de ça, il y a un réel risque derrière la dissolution de créer l'occasion de ressouder la communauté fasciste autour d'un discours victimaire. Et enfin, on peut dire qu'il y a ce qu'on peut appeler le péril de l'hydre, cette créature mythologique dont la tête coupée laisse finalement place à 2 nouvelles têtes. Et donc là, on a le vrai danger de voir cette dissolution s'accompagner d'une profusion de reformations un peu secrète, déguisée, donc de plein de groupuscules fascistes. Donc surtout qu'on ne s'y trompe pas, Audace défend les mêmes valeurs que ses prédécesseurs, mêmes actions, maraudes, tabassage, même idéologie, même militant, même, voire même emblème, ils ont gardé les mêmes couleurs, sauf qu'au lieu du phare qu'on avait, on a maintenant un petit coq gaulois, très fier. Bref, ce nouveau baptême ne nous leurre pas. Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos, et peut-être bien que ce renouvellement de façade par le nom donnera lieu à un autre renouvellement de façade, peut-être par la peinture.
Et après ce sujet, ce bon sujet sur, à l'échelle locale, on va repasser à l'international avec la deuxième partie de notre dossier sur Hong Kong.
C'est ça, et donc la semaine dernière, vous aviez eu surtout un petit rappel historique sur Hong Kong et le début des manifestations de cette année. Et aujourd'hui, on va essayer d'analyser un peu plus ce qui s'y passe. On va voir un peu ce que veulent les manifestants ou ce qu'on sait qu'ils veulent. Comment on réagit à l'étranger, en tout cas comment réagissent les gouvernements étrangers, comment la Chine réagit. On fera aussi un petit point sur les méthodes en manif et on finira aussi par la perception des manifestations et des manifestants dans les médias. Donc d'abord, que veulent les manifestants hongkongais qui manifestent maintenant depuis plusieurs mois ? Je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur le drapeau colonial qui a été déployé dans le Parlement le 1er juillet. Il se trouve aussi parfois brandi dans les manifestations et il pourrait laisser entendre que les Hongkongais souhaitent redevenir une colonie britannique, voire, et ça c'est l'opinion de Pékin, que les manifestations sont à l'initiative d'influences étrangères qui voudraient récupérer Hong Kong. En fait, déjà, il faut nuancer la présence de ces drapeaux. Dans le Parlement, celui qui a été érigé, il a été rapidement retiré et c'est la preuve que ce symbole n'est pas unanimement reconnu. En fait, les personnes interrogées par différents médias disent qu'ils ont besoin d'un symbole différent pour auquel s'identifier que celui qui existe, puisque le drapeau de Hong Kong, c'est une fleur blanche sur un fond rouge, mais ce fond rouge étant censé représenter l'appartenance de Hong Kong à la République populaire de Chine, c'est pas accepté. Et en fait, il y a maintenant une autre alternative, puisqu'il a été remplacé par un fond noir, et maintenant il y a un drapeau hongkongais auquel les manifestants peuvent s'identifier. En fait, il n'est pas très simple de savoir ce que veulent vraiment les Hongkongais, en dehors des revendications qui, elles, sont très claires, mais pour leur futur, puisque les personnalités auxquelles les médias s'intéressent le plus représentent autant les manifestants que Éric Drouet représentait ou représente les Gilets jaunes. Mais pour beaucoup, il ne s'agit en fait ni de redevenir britannique, même s'il y a quelques voix qui semblent demander un statut similaire au pays du Commonwealth, mais pas non plus de devenir indépendant. En fait, les revendications tournent plutôt autour d'un respect et d'un renforcement de la doctrine, un pays, deux systèmes, dont je vous parlais la semaine dernière. Il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas d'unanimité ni de consensus parmi les manifestants sur les revendications, sauf peut-être sur 5 d'entre elles, qui pour certains ne suffisent pas, mais que personne ne conteste. Ces revendications sont donc le retrait de la modification de la loi sur l'extradition, ça pour le moment c'est le cas, le suffrage universel réel, la libération de toute personne interpellée dans les manifestations, une commission d'enquête sur les violences policières qui ont eu lieu, et là je n'avais parlé assez brièvement la semaine dernière aussi, dans un métro et avec la complicité de triades chinoises de toute évidence, et enfin la démission de Carrie Lam qui est la chef du gouvernement hongkongais. Ensuite, comment ça se passe à l'étranger, comment les autres pays réagissent à ce qui se passe à Hong Kong. Hong Kong, en fait, il a déjà un lien particulier avec les États-Unis, puisqu'il est exempté de nombreuses taxes de douane, ce qui en fait pour les États-Unis un outil parfait dans sa guerre économique dont vous avez sûrement entendu parler avec la Chine, puisque donc les sanctions économiques que Trump a placé sur la Chine, en fait, ne sont pas à l'avantage des États-Unis non plus, puisque les États-Unis sont dépendants de l'import de beaucoup d'objets, d'import chinois, et ça les handicape donc. Et Hong Kong, ça permet de pallier à cet handicap, puisqu'il n'y a pas de taxes de douane entre Hong Kong et les États-Unis. Et ça permet donc de faire transiter des denrées chinoises par Hong Kong avant de passer par les États-Unis. Et ça permet donc quand même à Trump de dire à sa population qu'il impose des taxes à la Chine. Et en fait, c'est contourné après. Il se trouve qu'un petit groupe de personnalités considérées comme emblématiques du mouvement à Hong Kong se sont rendus à Washington. À Washington. C'est trop de mélange. Ils s'y sont rendus donc pour demander à ce que les États-Unis fassent pression sur la Chine. Et donc moi j'ai eu la curiosité d'écouter cette intervention au Congrès américain et les débats qu'il y a eu avec les sénateurs. Les sénateurs qui y participaient ont déclaré quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à leurs yeux, les droits fondamentaux à Hong Kong sont réellement en danger. Et ils sont réellement en danger parce que la police utilise des gaz lacrymogènes, tabasse les manifestants, et que les manifestations sont souvent interdites, et même que les forces de l'ordre interviennent en cachant leur numéro d'identification. Alors, je ne sais pas ce qu'attendent les Hongkongais des États-Unis, mais il est certain que tout ce que feront les États-Unis, ils ne le feront pas pour l'amour de la liberté, comme c'est jamais le cas. Et la preuve en est que les gaz lacrymogènes et les numéros d'identification cachés, les tabassages de manifestants, ça existe aussi aux États-Unis, et pas que aux États-Unis d'ailleurs. Même si les Hongkongais qui se sont présentés devant le Congrès n'ont pas manqué d'encenser les États-Unis comme symbole de la liberté, de la démocratie et de la justice, ils ont aussi beaucoup insisté sur le fait que Hong Kong a besoin de cette liberté et de cette démocratie pour faire fleurir son économie. Ça, c'est les mots exacts qu'ils ont utilisés. Arguments auxquels sont sûrement plus sensibles le pouvoir américain, notamment parce que, donc on en revient à ce que je vous disais, le port de Hong Kong voit transiter 6% des exportations américaines vers la Chine et 17% des produits chinois vers les États-Unis, et c'est en train d'augmenter, notamment à cause de la guerre économique entre Trump et Xi Jinping. Je reviens un petit peu rapidement sur le parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec les Gilets jaunes, puisque sur la forme d'organisation, on peut tout à fait faire ce rapprochement. Aujourd'hui, les actions et les manifestations sont impulsées essentiellement par Telegram et un forum sur Internet, et non pas par des organisations, comme ça a été le cas brièvement au début. Les manifestations ne sont donc pas déclarées, et chacun vient avec sa propre énergie, ses propres idées, et aussi avec ses propres revendications. Ça, je crois que je me suis trompée de paragraphe, que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je continue. Et donc, comme pour le mouvement des Gilets jaunes, on ne peut pas mettre tous les manifestants dans le même panier. Et il faut quand même dire qu'on entend peu de critiques sur le capitalisme et on est obligé de reconnaître qu'une bonne partie des personnes qu'on entend s'exprimer mettent absolument tous les mots de Hong Kong sur le dos des Chinois, que ce soit la crise du logement ou le fait que 20% des Hongkongais vivent sous le seuil de pauvreté. Par contre, un peu comme ce qui est né dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a un mouvement de solidarité entre les différentes opinions et les différents modes d'action. C'est-à-dire quelque chose qu'on entend beaucoup et qui a été relevé par différents médias français, c'est que les gens disent « on ne se divise pas, on ne dénonce pas, on ne se désolidarise pas ». Ce qui me semble être la base pour quoi que ce soit, pour quoi que ce soit devienne possible en terre de révolte populaire. Ensuite, passons aux réactions de la Chine, puisque la Chine réagit effectivement assez mal aux manifestations à Hong Kong. Sa toute première réaction a été de censurer l'information en Chine continentale, jusqu'à ce que cela devienne un peu trop difficile à cacher, et ensuite elle a diffusé une information contrôlée et tronquée, voire complètement faussée sur Hong Kong. Principalement en divisant par 10 le nombre de manifestants, en publiant des sondages fictifs disant qu'une minorité d'Hongkongais soutenait les manifestants, et surtout en dressant un portrait presque démoniaque des manifestants qui casseraient tout sans distinction et seraient les pantins des étrangers, insulte suprême en République populaire de Chine. Alors que, en fait, oui, les États-Unis interviennent un peu en Hong Kong, surtout par le biais du soft power, notamment parce que le Front civil des droits de l'homme, qui est une des instances très présentes dans les manifestations et qui a organisé les premières, entre autres choses, elle est en fait financée par un fonds qui appartient à la CIA et qui n'est clairement pas simplement un fonds de charité, puisque la CIA ne fait pas de charité, et c'est un outil de soft power. Mais ça devient, mais c'est pas possible de dire que les Hongkongais sont seulement manipulés par les États-Unis. Et qui n'ont pas envie de vivre en République populaire de Chine. On soupçonne aussi fortement la Chine d'avoir envoyé des milices casser du manifestant, ça je vous en parlais, mais surtout, début août, il y a eu cette intervention du porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao, chinois donc, le porte-parole, qui a adressé un discours aux manifestants hongkongais en leur disant, je cite deux passages, « Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu » et ne sous-estimez pas la détermination et la puissance immense du gouvernement central. Le tout accompagné d'une vidéo de démonstration des entraînements de l'armée chinoise pour intervenir sur les manifestations. C'est un peu le cœur du débat dans les médias, apparemment. Est-ce que la Chine va intervenir militairement sur le sol hongkongais ? Il n'y a aucun doute sur le fait que militairement, la Chine aurait le pouvoir d'écraser les manifestants, mais le président chinois ne se doute pas non plus qu'un deuxième Tiananmen le décrédibiliserait sur la scène internationale, et c'est un risque qu'il n'a pas vraiment besoin de prendre. La Chine a d'autres leviers pour influencer Hong Kong, ne serait-ce qu'économiquement, puisque à une époque, c'était la Chine qui bénéficiait de l'économie de Hong Kong, et aujourd'hui, c'est moins le cas, et c'est même Hong Kong qui est un peu dépendant de l'économie chinoise. En 1997, Hong Kong représentait 27% du PIB de la Chine au complet, et aujourd'hui, il ne représente plus que 3% du PIB de la Chine. À noter aussi que pour le moment, rien de grave ne se passe pour le gouvernement chinois. On est loin d'avoir éveillé un sursaut démocratique chez les Chinois continentaux, qui ont de toute façon peu accès à ce qui se passe réellement en Hong Kong. Et les manifestations ont en effet seulement pour le moment empêché la modification de la loi. Mais jusqu'à présent, la Chine s'en portait pas si mal. Par exemple, on a vu la semaine dernière que la Chine se permet d'enlever des gens à Hong Kong. Je vous ai parlé de libraires, mais il y a aussi eu un milliardaire qui a été enlevé parce qu'il avait des propos contre le gouvernement chinois. Et donc si la Chine se permet d'enlever des milliardaires, je pense que tout autre dissident, il n'y a pas de problème sur ça, quoi. Et donc elle peut se permettre d'observer sans intervenir directement par la force. Le discours sur l'intervention potentielle à Hong Kong, en fait, il est plutôt destiné à sa propre population, qu'elle contrôle très bien, et ça fait partie de son image de main ferme et un encouragement au patriotisme chinois. Si j'ai le temps, je vous dis quelques mots. Peut-être on passe directement à la dernière partie.
Ok, donc si en France, en fait, la lutte des Hongkongais, elle a été autant remarquée, c'est notamment grâce à la détermination et à l'organisation minutieuse dont font preuve les manifestants à chaque manifestation. Hein, la plupart d'entre eux utilisent des messageries cryptées, comme tu le disais, pour communiquer en manif ou avant, et utilisent aussi des méthodes d'attaque et de retraite assez efficaces contre les flics et contre certaines cibles politiques, certains bâtiments officiels. Et ils profitent pour ça d'ailleurs du réseau de métro, de l'aide de la population locale et des tactiques des flics hongkongais qui, en tout cas jusqu'à assez récemment, étaient moins agressifs que ce qu'on peut connaître en France. Alors, lors des affrontements avec les forces de l'ordre, les manifestants hongkongais ils s'organisent en 5 lignes. Alors, j'aimerais bien vous détailler le rôle de chacune des lignes et de chacun des types de manifestants, mais là, on manque un peu de temps. Du coup, je vous invite à aller sur le site Rouen dans la rue, où ils ont traduit toute une série d'iconographies qui expliquent les méthodes qu'utilisent les manifestants hongkongais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces groupes de manifestants s'étage au sein de la manifestation en fonction de leur rôle. Notamment l'avant de la manifestation en première ligne, donc chargé de l'affrontement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a d'autres types de manifestants qui, eux, se chargent de ramener de quoi monter des barricades, de surveiller les mouvements de force de l'ordre, etc., etc. Donc, une organisation ingénieuse, efficace, qui leur a valu l'intérêt des milieux militants français et des Gilets jaunes en particulier, mais aussi de la presse française qui s'est extasiée pendant un moment face à leur lutte pour la démocratie, face aux monstres chinois et à la dictature chinoise. Alors on a rapidement vu toute l'hypocrisie et la dissonance cognitive des journalistes et des élites journalistiques en général, qui voient dans la violence des manifestations gilets jaunes en France une forme de bestialité, d'irrationalité, etc. Mais dans celle d'Hong Kong, donc très très loin, des milliers de kilomètres, voit dans cette violence en manifestation une lutte démocratique face à une méchante dictature. Bref, il y a clairement une forme de fantasme exotique des journalistes français par rapport à cette lutte lointaine, et aussi une bonne part d'hypocrisie qui tient au fait que leurs intérêts ne sont pas en jeu.
Donc pour conclure très rapidement, on ne se doute pas qu'il se passe de belles choses à Hong Kong, dans les manifestations et les modes d'action, et certainement dans les rencontres aussi. Mais c'est dommage qu'il n'émerge pas assez significativement d'alternatives à la fois à la Chine dictatoriale et à la fois au libéralisme américain, mais pas que américain. Ça reste quand même à suivre, puisque la semaine dernière, il y a quand même eu des manifestations tous les jours. Et demain, pour l'anniversaire de la République populaire de Chine, il va y en avoir une immense, qui à mon avis vaut le coup de suivre, pour protester contre en fait le fait qu'on célèbre la mise en place d'une nation autoritaire et dictatoriale.
Et il nous reste une petite minute pour faire le traditionnel agenda.
Alors, à Lyon, cette semaine, on a demain soir à l'Amicale, 31 rue Sébastien Griffe, une soirée de soutien organisée par Table Rase. Donc, c'est à partir de 19h. Et ensuite, on vous invite vendredi à une projection organisée par l'OIP, c'est l'Observatoire International des Prisons. C'est jeudi à 19h à la librairie La Griffe, sur les violences pénitentiaires, notamment des matons. Et bon, au même moment, mais je vous le dis quand même, aura lieu à 18h30 l'Assemblée Générale de l'association Terre d'Ancrage, qui fait pas mal d'actions de solidarité avec des personnes exilées. Et ça, c'est à 18h30 à la Maison des étudiants. Voilà, donc ça fait deux événements en même temps, mais vous avez le choix.
Et on vous laisse tout de suite avec le copain de Blasphème FM et on vous dit à lundi prochain.
À lundi prochain.
Et quand viendra le soir, laissant les souvenirs amers.